Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 12 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal Les Sports, la rubrique du mardi sur le Covid-19 en Australie, le gouvernement qui vient d'annoncer la quatrième dose de vaccin. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et les grands titres de ce 12 juillet, une nouvelle campagne nationale contre le racisme est lancée, exhortant les Australiens à réfléchir et à agir contre le racisme. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique tentent d'apporter l'unité dans la région. En France, une motion de censure déposée par l'Alliance de gauche contre le gouvernement d'Elisabeth Borne a été rejetée hier. Une nouvelle campagne nationale contre le racisme a été lancée et appelle les Australiens qui n'ont pas vécu le racisme à réfléchir sur ses causes et ses impacts. La campagne publicitaire multiplateforme vise à faire prendre conscience de la façon dont le racisme fonctionne à la fois au niveau structurel et interpersonnel et espère donner aux gens des outils pour le reconnaître et y faire face. Le commissaire à la discrimination raciale, Shin Tan, a déclaré sur SBS News que la campagne aborde les défis de la réalisation de l'équité raciale en Australie.
The campaign is part of a larger anti-racism strategy that we're implementing. It is about calling our Australians to take a stand against racism because racism prevents us from living in a fair, just and equal society.
Tasnim Chopra, consultante interculturelle et formatrice en diversité, a déclaré sur SBS News que de nombreux lieux de travail ont beaucoup à faire pour combler les lacunes.
There's no room for discussion. You can't have a conversation with someone who's got a very dogmatic view and whose entire opinion of you is formed on a stereotype. So yeah, it does get tiring and it informs a lot of the work that I do in terms of breaking down people's misperceptions or misconceptions and misinformation.
La ministre australienne des Affaires étrangères, la sénatrice Penny Wong, et le ministre du Pacifique, Pat Conroy, sont à Fidji pour le Forum des îles du Pacifique pour la première réunion en personne en 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19. Mais il y a eu le retrait de Kiribati du Forum, ce qui a choqué plusieurs. On craint que le retrait de Kiribati, compte tenu de sa relation étroite avec Pékin, ne détourne potentiellement l'attention de la discussion sur l'influence de la Chine dans la région. On écoute Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères.
You look to where the forum was over a year ago now. We are in a much better place than we were, and that's a great tribute to leaders who've been prepared to come to the table when there were really, strong differences, some of which you've referred to. But obviously, where things are with Kiribati, we need to keep the door open and keep working towards reconciliation.
Le Premier ministre Anthony Albanese se rendra à Fidji demain et il va encourager à investir davantage dans les énergies renouvelables dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique afin de répondre aux préoccupations climatiques et économiques. Dans un discours au Sydney Energy Forum ce mardi 12 juillet, il a appelé à davantage d'investissements dans les énergies propres afin d'aider à atteindre les objectifs net zéro.
I'm committed to renewing Australia's standing in our region. This work is underway, demonstrating our government's commitment that each action that we take Each policy that we pursue in this space will be driven by a larger vision of our shared future, a future with new clean energy industries and jobs as its foundation.
Le gouvernement fédéral a annoncé les détails d'un sommet sur l'emploi qui se tiendra en septembre prochain. Le sommet Jobs and Skills Australia se tiendra début septembre avant le premier budget du gouvernement en octobre. Le gouvernement affirme qu'il rassemblera les entreprises, les syndicats et les parties prenantes et va se concentrer sur le perfectionnement des travailleurs et va offrir plus d'opportunités aux femmes. Le trésorier Jim Chalmers a déclaré à la radio ABC qu'il était possible d'améliorer les paramètres de migration.
I would caution people against thinking that migration is the solution to all of our economic challenges. It's part of the story, but it's not the whole story, and it shouldn't be a substitute for training Australians for roles. It shouldn't be a substitute for childcare reform.
La durée pendant laquelle une personne récupère du COVID-19 et considérée comme immunisée contre le virus doit être réduite. Les réinfections au COVID-19 sont de plus en plus courantes dans tout le pays et à mesure que de nouveaux sous-variants du virus circulent, le Comité australien de protection de la santé a recommandé que la période de réinfection soit réduite de ses 12 semaines actuelles à 28 jours suite à l'augmentation des cas de Omicron. Le médecin-chef du pays, le Dr Paul Kelly, a abordé le sujet ce matin sur ABC Breakfast.
It's yet another curveball that's been given to us by this virus. The new BA4, BA5 variants are more infectious. There is now strong evidence that you can get reinfected earlier than what we had previously seen to be the case.
Une nouvelle campagne numérique a été lancée dans tout le Queensland visant à réduire le risque que les habitants de l'État développent de graves problèmes de santé. La campagne My Health for Life a été développée pour aider ses habitants éligibles à bien vivre et à éviter de développer des maladies graves telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et les accidents vasculaires cérébraux. Bien que le programme soit également disponible en vietnamien, samoan, vietnamien, cantonais, mandarin et arabe, d'autres langues suivront. La porte-parole de Healthier Queensland Alliance, Louise Natouche, a déclaré qu'une approche ciblée était importante car les personnes issues de milieux culturels et linguistiques divers subissent souvent des maladies plus compliquées en raison d'un manque d'accès aux informations et aux services.
So it might be sleep, it might be eating more vegetables, it might be increasing their activity levels, it might be reducing their alcohol intake. It's really personable to them. We all know that if we listen to someone speaking our own language, that really is impactful and resonates and we can relate.
Les agriculteurs des régions de Hawkesbury et de Nepean se voient offrir une aide financière et des conseils à la suite des récentes inondations. Rural Aid indique qu'il fournit une nouvelle série d'aides financières aux familles d'agriculteurs dans les zones de gouvernement local touchées. Les producteurs primaires touchés par les inondations peuvent désormais demander une carte Visa prépayée de $400. La dernière aide fait suite à la distribution $1 million aux agriculteurs dont les fermes ont été inondées plus tôt cette année. Les agriculteurs, leurs familles et leurs employés peuvent également accéder au service de conseil gratuit de Rural Aid qui se rendra dans les régions une fois qu'il sera possible de le faire en toute sécurité. Ailleurs dans le monde, la crise politique au Sri Lanka avec le prochain chef d'État élu le 20 juillet prochain. Un gouvernement d'unité nationale sera mis en place. Écoutez Rashika Jajoli, responsable du mouvement de jeunesse Next Generation Sri Lanka, sur les enjeux de la semaine qui vient. Il est sur RFI.
Je crois que regagner la confiance du peuple va être difficile. Beaucoup sont anxieux à l'idée que Gotabaya Rajapaksa ne démissionne pas vraiment mercredi, qu'il fasse même machine arrière et tente de reprendre le pouvoir. Ce que les Sri Lankais veulent aujourd'hui, c'est un gouvernement provisoire avec tous les partis qui élisent un nouveau Premier ministre et un nouveau président issu du Parlement. Le problème, c'est qu'aucun parti au Parlement ne peut dégager une majorité. Il va donc être difficile de trouver le consensus politique. D'autant qu'un grand nombre de députés du parti de Rajapaksa sont maintenant devenus indépendants. Cela veut dire qu'ils ne répondent plus aux ordres du parti SLPP et cela rend l'équation politique encore plus illisible. C'est pour cela que ce mouvement citoyen doit continuer dans l'esprit de non-violence qui l'anime depuis le début, pour s'assurer que le nouveau gouvernement réponde aux attentes du peuple.
En Bosnie-Herzégovine, une commémoration hier du massacre de Srebrenica le 11 juillet 1995. À l'époque, les forces serbes avaient tué plus de 8000 hommes musulmans. Crime qualifié de génocide par la justice internationale. Reportage Laurent Rouy pour RFI.
Cette année, 50 victimes nouvellement identifiées ont été enterrées dans le cimetière mémorial de Potočari, situé à quelques dizaines de mètres du lieu où, en 1995, les forces serbes avaient séparé les hommes, presque tous exécutés, des femmes qui avaient presque toutes survécu. La plus jeune des victimes enterrées aujourd'hui avait 16 ans au moment du massacre. Ses restes avaient été découverts en 2001, mais il a fallu 20 ans pour parvenir à une identification. Un certain nombre de corps identifiés n'ont toujours pas été inhumés car ils sont incomplets, tandis que d'autres ossements récemment retrouvés appartenant à des victimes déjà enterrées seront réensevelis après la cérémonie d'aujourd'hui. Cette année, la commémoration se tient dans un contexte tendu puisque des photographies de victimes serbes de la guerre, civiles comme militaires, avaient été plantées le long de la route menant au mémorial, un geste qualifié de provocation à Sarajevo. Dans un pays toujours fracturé selon des lignes ethniques et alors que des élections approchent, les commémorations de Srebrenica sont utilisées une fois de plus à des fins politiques.
Au Mali maintenant, avec 49 militaires ivoiriens interpellés à l'aéroport de Bamako hier, ils sont considérés comme, je cite, des mercenaires par les autorités maliennes. Reportage de Gaël Alex pour RFI.
Pour le gouvernement malien, l'objectif des soldats ivoiriens était de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Le communiqué déroule les faits qui leur sont reprochés. La possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation. La dissimulation de la profession des soldats. Enfin, une certaine confusion dans les motifs avancés par les militaires sur leur présence en territoire malien. Était-ce une rotation dans le cadre de la MINUSMA ? La sécurisation d'une base logistique de l'entreprise Sahelian Aviation Service ou la protection du contingent allemand. Les trois en même temps, selon Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA a laissé entendre hier que ces militaires font partie d'éléments nationaux de soutien. Depuis 2019, les soldats ivoiriens fournissent un appui au contingent allemand de la MINUSMA qui lui-même les affecte à une entreprise privée sous-traitante, la SAS, pour sécuriser certains sites. Les soldats interpellés vont maintenant être remis aux autorités judiciaire compétente. Bamako demande la coopération d'Abidjan pour faire la lumière sur cette affaire.
Aux États-Unis, avec les tueries de masse récemment et le président Joe Biden qui avait signé en juin dernier une loi bipartisane pour renforcer la législation sur les armes. Hier, il y avait une cérémonie à la Maison-Blanche concernant cette loi considérée la plus importante législation depuis 30 ans. Reportage de David Thompson pour RFI.
Les armes à feu, première cause de mortalité des enfants aux États-Unis, martèle Joe Biden dans les jardins de la Maison-Blanche devant un parterre de familles de victimes. Des victimes assassinées à chaque fois ou presque avec un même fusil d'assaut, modèle AR-15. Une nouvelle fois, Biden appelle le Congrès à les interdire.
Quelle est l'utilité de ces armes en dehors des zones de guerre? Ces armes visent à faire le plus de dégâts possible. C'est pour ça, pardon de le dire, que beaucoup d'entre vous ici avez été obligés de fournir des échantillons d'ADN pour identifier vos enfants.
Mais voilà, la nouvelle législation signée le mois dernier par Joe Biden pour restreindre l'accès aux armes à feu rate ce point essentiel et n'interdit pas le fusil d'assaut préféré des tueurs de masse. Alors en plein discours, incident rarissime. Joe Biden est interrompu par le père d'un lycéen tué à Parkland en Floride en 2018. Manuel Oliver accuse le président de ne pas en faire assez et s'explique ensuite sur CNN.
Cette loi, c'est un feu vert donné au Congrès pour ne rien faire pendant encore 30 ans.
Et pourtant, en 1994, Biden, alors sénateur, était parvenu à interdire la vente des fusils d'assaut, mais cette interdiction ne valait que pour 10 ans. En 2004, elle n'a pas été renouvelée sous la pression de la NRA, le puissant lobby des armes à feu aux États-Unis.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 14. Melbourne, 12. Hobart, 11. Canberra, 12. Sydney, 17. Brisbane, 20. Cairns, 26. Darwin, 29. Et à Alice Springs, maximal de 18 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 12 juillet. Une nouvelle campagne nationale contre le racisme est lancée, exhortant les Australiens à réfléchir et à agir contre le racisme. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique tentent d'apporter l'unité dans la région. Fin du journal. Merci de rester avec nous et dans quelques instants, le journal des sports en compagnie de Marianne Murat.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Du football, du tennis et du cyclisme. Et on commence avec le football, donc l'Euro féminin qui a débuté en Angleterre. Les Françaises ont fait une entrée fracassante dans la compétition. Les Bleus qui ont battu les Italiennes 5-1. On écoute la joie, la satisfaction de la sélectionneuse Corinne Diacre.
Il fallait qu'on gagne ce premier match, c'est chose faite. On essaye toujours de trouver les mots qu'il faut, la motivation pour cette deuxième période, mais quand on mène 5-0, on avait tellement tout fait sur la première période que c'était... Voilà, on a essayé malgré tout, mais bon, très satisfaite de ce premier match et de cette première victoire. Et maintenant, on va s'atteler à la tâche pour le deuxième match, effectivement.
Et en Formule 1 à présent, hein, 3 mois jour pour jour après sa victoire au Grand Prix de Melbourne, eh bien Charles Leclerc, le pilote de Ferrari, a remporté le Grand Prix d'Autriche ce week-end. Deuxième sur le podium, Max Verstappen. Lewis Hamilton, lui, arrive en 3e position. On écoute le pilote de Mercedes.
Massively satisfying. So happy to. It's a bit. I was a bit lonely at once I got those guys were like 30 something seconds ahead of me. So I was just watching their race on the TV. So down the straights, I was just watching where they were. I could see them coming through like turn 6 as I was coming out turn 1. So I was getting a bit of a fan view of what was happening. I saw some of the overtakes they were having. I think they did replays and stuff. So. Yeah, but to after such a difficult weekend, you know, with the crash, with a monumental effort from the team to rebuild the car, this is a really great result, so I'm very grateful.
Et la prochaine course, c'est le Grand Prix de France hein, sur le circuit Paul Ricard. Rendez-vous le 24 juillet à 23h, heure de Melbourne. On passe au tennis avec la finale du tournoi de Wimbledon et une fois encore, Novak Djokovic a brillé. Le Serbe l'a emporté en 4-7 sur l'Australien Nick Kyrgios. 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Il s'agit de la 21e victoire en Grand Chelem pour Novak Djokovic et sa 7e victoire sur le gazon londonien. Au total, on l'écoute.
Je n'ai plus les mots pour décrire ce que ce tournoi, ce que ce trophée représente pour moi, mon équipe, ma famille. Ça restera pour toujours le tournoi le plus spécial pour moi, celui qui me tient le plus à cœur, celui qui m'a donné envie de pratiquer le tennis dans ce petit village de Serbie où mes parents tenaient un restaurant. J'avais 6 ans et j'ai vu Pete Sampras remporter son premier Wimbledon en 1993. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une raquette, d'où mon attachement au gazon et à ce tournoi. J'ai toujours rêvé de venir ici, simplement jouer sur ce court et bien sûr réaliser mon rêve d'enfant en soulevant la coupe. Chaque victoire ici me motive encore plus. Je suis reconnaissant d'être devant ce public avec ce trophée.
Meaningful and special, and so I'm very blessed and very thankful to be standing here with the trophy.
L'Australien Nick Kyrgios, aussi fascinant que détestable, s'est dit fatigué à l'issue de ce dernier match. C'est la première fois qu'il atteint une finale en Grand Chelem. On l'écoute.
Myself, my team, I think we're all exhausted. You know, we played so much tennis, but I definitely need a well-earned vacation after this one. So I'm just really happy with this result. It's probably the best of my career, and hopefully, maybe one day I'll be here again. But I don't know about that.
Du côté des dames, eh bien, victoire de la Kazakhstanaise Elena Rybakina sur la numéro 2 mondiale Ons Jabeur en 3 manches, 3-6, 6-2, 6-2. C'est la première victoire en Grand Chelem pour la joueuse de 23 ans. Écoutez.
Thank you so much. I'm actually speechless because I was super nervous before the match, during the match, and I'm honestly happy that it finished, to be honest, because really, I never felt something like this, and I just want to say big thanks to the crowd for the support. It was unbelievable.
Déception de la Tunisienne, hein, mais émotion également, puisque Ons Jabeur est la première africaine à se hisser en finale de Grand Chelem.
I love this tournament so much, and I feel really sad, but I mean, it's tennis, there is only one winner. I'm really happy that I'm trying to inspire, you know, many generations from my country.
On ouvre la page cyclisme à présent et les coureurs du Tour de France se sont reposés hier. On apprend que l'Australien Ben O'Connor ne s'élancera pas au départ de la 10e étape ce soir. L'Australien qui pourtant était un espoir sur cette grande boucle, un espoir de podium voire de victoire, eh bien il s'est blessé. Il sera présent à la Vuelta mais il ne partira pas ce soir. On l'écoute.
The stage to Lausanne, I tore my glute muscle, so pretty much I'm just pedaling with one leg, so it's been really difficult. I fought yesterday and I really wanted to try to see if I could get past this point of pain, but it's just way too much. You have like a knife in your ass, more or less, so it's pretty brutal, and I don't think it's going to get better by the end of the race, so yeah, I won't be making the start for stage 10.
Repos hier donc, et 9e étape, c'était dimanche, la première étape dans les Alpes entre Aigle et Châtel. Étape qui a vu la victoire de Bob Jungels, le Luxembourgeois, en solitaire après une échappée d'une soixantaine de kilomètres. Écoutez.
Ouais, bien sûr, j'ai beaucoup d'émotions qui sont présentes là, donc voilà, c'était mon grand but de gagner une étape, mais. Voilà, depuis quelques semaines, je crois que je reviens un peu à peu. J'ai vu lors du Tour de Suisse que je grimpe bien, que je fais des beaux chronos. Et voilà, hier, j'étais là avec les meilleurs, mais j'ai déjà dit d'être là avec les meilleurs et de gagner une étape, c'est deux choses très différentes. Et voilà, en plus, je pense que aujourd'hui, j'ai tout risqué, j'ai tout mis sur une carte. J'ai essayé de loin et voilà, après voilà, le succès est énorme et les émotions sont énormes, et je pense que ça va prendre un peu de temps avant de réaliser qu'est-ce que j'ai vraiment fait aujourd'hui.
Échappée dans laquelle figurait également Thibaut Pinot. Le Français aurait presque pu rattraper Bob Jungels dans la dernière ascension, mais Thibaut Pinot a finalement fini 4e. Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
Les yeux dans le vide, assis sur une petite chaise en plastique, à quoi pense Thibaut Pinot avant de monter sur le podium pour recevoir le prix de la combativité? Peut-être rembobine-t-il le film de cette étape qu'il avait abordée, remontée comme un coucou suisse après sa chute d'hier dans la bonne échappée. Le grimpeur français laisse filer Bob Jungels pour mieux le rattraper, pense-t-il. Dans le dernier col, l'écart fond, 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute, 20 secondes, presque rien, mais 20 secondes de trop à l'arrivée, Thibaut Pinot.
J'ai cru, c'est vrai que j'ai un peu de regret, j'aurais su
que j'étais pas si mal que ça au final et tout le monde était un peu cuit dans le groupe, j'aurais peut-être attaqué un peu plus tôt. C'est qu'après qu'on peut, s'en rendre compte. Après, Jungels a fait un numéro et il mérite sa victoire. Ouais.
Pinot, simple coureur, après avoir été grand leader, n'a rien perdu de ce panache qui fait sa popularité. Ses jambes de 32 ans ne sont plus celles d'antan. Son corps doit se remettre d'un épisode Covid, mais des jours meilleurs arrivent, promet son coéquipier David Gaudu.
Ouais, je pense surtout qu'il a encore un petit peu des restes du Covid. Hein. Vous savez, le Covid, ça couche un homme, donc le voir à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Et on sait de quoi il est capable une fois qu'il est lancé. Il va être revanchard et je pense qu'on va retrouver bientôt du grand Thibaut.
Du Pinot grand cru, comme celui capable de gagner à l'Alpe d'Huez ou au Tourmalet, le public en rêve. Rendez-vous dans les prochains jours.
Et le maillot jaune reste donc en attendant sur les épaules du Slovène Tadej Pogačar. Le Tour de France, la grande boucle, est suivi de près par notre collègue Christophe Mallet puisqu'il est sur place. Et toutes les semaines, il nous fait vivre l'atmosphère, l'ambiance, les coulisses. Épisode numéro 2 du Tour de France par Christophe Mallet, c'est une interview signée Thomas Mercier.
On retrouve Christophe Mallet depuis la France en direct du Tour de France. Bonjour Christophe.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors après une semaine, comment se passe le tour ?
Plutôt pas mal. On est un peu dans l'expectative, sachant que on se demande encore comment tout ça va pouvoir se dérouler sur la semaine à venir. Mais la réalité, c'est que y a un leader qui était très attendu, Tadej Pogačar. Il est déjà en jaune, il est déjà en tête donc du classement général, ce qui est quand même une petite surprise. On va en parler si vous voulez, mais c'est ouais, voilà, et on va attendre de savoir s'il est sur le point d'atomiser le Tour de France ou si les autres vont pouvoir un petit peu le défier sur les routes du Tour.
Alors là, la dernière étape, ça s'est passé en Suisse, un petit tour en Suisse et on retourne en France, première étape de montagne. Il faisait chaud, il faisait beau, des paysages spectaculaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette dernière étape ?
En fait, si on revient un petit peu en arrière, c'est le quatrième pays qu'on traverse avec ce Tour de France, puisqu'on a été au Danemark, on a été donc en Belgique, en France et maintenant donc la Suisse. La beauté des paysages, bien entendu, parce que la Suisse c'est quand même magnifique, c'est beau, c'est vraiment très chaleureux et puis il y a une vraie culture du vélo. Et puis la dernière étape, c'était une belle étape, pas encore une étape de montagne à proprement dit, mais ça c'est une sorte de petit teaser qui donne envie, qui donne l'envie d'en voir plus et ça va arriver, ça arrive dans les prochains jours, toute la semaine prochaine, il y aura une grosse partie d'étapes alpines et ça c'est toujours un peu le point d'orgue du Tour de France.
Oui, cette année en plus le programme du Tour, il est vraiment axé sur la montagne. Et côté australien, ça donne quoi cette année pour le moment ?
Bah, ça donne du plaisir parce qu'il y a eu une victoire avec Simon Clark et puis la déception parce que Ben O'Connor, qui était le grand espoir du cyclisme australien en tout cas pour cette année, a quelques petits problèmes de santé avec sa cuisse. Du coup, voilà, des hauts et des bas un peu cette semaine avec aussi Caleb Ewan qui a pas pu gagner d'étape sur les étapes de sprint. Donc à voir si ça va être possible dans le courant de la semaine qui arrive, mais ça risque d'être compliqué, en tout cas compliqué pour les Australiens de faire plus. Mais bon, de gros espoirs sur les jeunes pousses comme Nicolas Schulz ou il y a encore Luke Durbridge qui peuvent peut-être faire quelque chose cette semaine. Donc ça va être très 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 intéressant sur la semaine à venir.
Et côté français,
C'est un peu la Bérésina, on va le dire. On avait quand même beau... Non, je rigole, mais c'est vrai que voilà, il y a Romain Bardet qui est très bien placé et c'est peut-être le seul espoir français pour pouvoir faire quelque chose à ce Tour de France, peut-être même un podium, ça peut être intéressant. Romain Bardet, il a fait deux podiums au Tour de France, une fois troisième, une fois deuxième. Il lui manque donc la plus belle marche. Ça va être quand même compliqué pour Romain Bardet d'aller chercher la victoire, mais il peut très bien atteindre une troisième, voire même une deuxième place sur le podium. Il est très bien placé. Et puis voilà, on a vu les éclats qui peuvent arriver. Et on l'a vu ne serait-ce que dimanche avec Thibaut Pinot qui était à 40 secondes du bonheur. Mais à 40 secondes du bonheur, ça le place quatrième et ça le place pas premier de l'étape. Même s'il a vraiment fait une belle poursuite pour essayer de rejoindre le luxembourgeois Bob Jungels, mais voilà, ça n'aura pas suffi. Donc pas de victoire étape française pour le moment, mais on espère que ça devrait arriver. Et puis voire même cette semaine, il y a quelques belles échappées qui peuvent se créer avec des belles opportunités pour les Français.
Alors c'est vrai que le mental a été mis à rude épreuve lors de cette étape entre Jungels et Thibaut Pinot, puisqu'il était parfois à 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, il était là, il le touchait, il n'a pas réussi à l'atteindre. Le mental est vraiment mis à l'épreuve durant cette étape.
Ouais, moi, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point le vélo, c'est un sport mental aussi. On peut être vraiment, quand vous vous rendez compte, si vous devez suivre quelqu'un pendant près de 60 km, vous n'êtes qu'à 30 secondes, vous le voyez en point de mire, mais vous n'arrivez pas à gagner une seconde dessus, mentalement, ça vous ruine. Donc, c'est là où on reconnaît les champions, des très grands champions, des très, très, très grands champions, en fait. Qu'une victoire d'étape, ça ne se gagne pas que forcément dans les jambes, ça se gagne aussi dans la tête. Et on l'a vu d'ailleurs beaucoup cette semaine avec Simon Clark, australien, quand il a gagné son étape. Il a battu au sprint un autre coureur, donc j'ai oublié le nom, mais en fait, il l'a gagné pas dans les jambes, mais il l'a gagné dans la tête, il a été plus malin. Donc c'est très 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 important le niveau mental pour tout ce qui est cyclisme.
Alors ce qu'on dit souvent dans le cyclisme, si le mental ne suit pas, les jambes sont coupées. Littéralement, c'est qu'il n'y a plus de jambes, plus rien se passe. On est à l'arrêt total. On a vu quelques coureurs lors de la dernière étape s'arrêter quasiment, d'être au ralenti. C'est une souffrance d'ailleurs de les voir à l'image ralentir et voir cette descente de vitesse et voir tout le peloton qui passe à côté d'eux. C'est vraiment quelque chose de très dur à regarder hein, parfois.
Ouais, c'est sûr qu'on voit de la misère humaine. Bon, après, il y a sûrement pire dans le monde, c'est sûr, mais là, c'est de la vraie douleur physique et on se rend compte à quel point le sport, comme le sport du cyclisme, est vraiment très, 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 très dur pour les organismes et également pour la tête, comme vous l'avez dit. Ouais.
Alors, les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on a au programme, Christophe ?
De la montagne, de la montagne, de la montagne, et surtout, on se dirige, on est encore dans les Alpes et on se dirige vers les Pyrénées, donc il va y avoir des étapes de montagne avec de belles arrivées. Il y a Megève comme arrivée, il y a Morzine, donc ça va être vraiment des belles stations de ski très connues, mais aussi des belles grosses montées. Puis surtout pour moi, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, mais les Pyrénées arrivent et il y a des montées de légende, des montagnes de légende comme Hautacam qui sont au programme depuis une éternité autour de France et elles ne reviennent pas forcément tous les ans, voire même pas souvent. Et quand il y a une ascension comme Hautacam avec une arrivée à Hautacam, pour moi ça va être l'étape, c'est l'avant-dernière étape de ce Tour de France et ça va être une étape qui est déjà mythique sur le papier. Donc on espère que ce sera de même sur vos écrans de télé.
Autant dire qu'on est vraiment impatients. Et on avait une petite question subsidiaire pour aujourd'hui. On parle souvent de l'impact écologique du Tour de France. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager à ce niveau-là ? On sait que le Tour de France fait des efforts pour le rendre plus éco-responsable. Et vous qui êtes sur le Tour, est-ce que vous voyez des choses qui changent au fur et à mesure des années ?
Oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup plus de responsabilités au niveau du Tour parce que les choses sont faites. C'est difficile, faut qu'à un moment ou un autre, les gens se déplacent en voiture quand même. Donc c'est difficile de changer les choses. Par contre, les véhicules sont tous les véhicules présents sur le Tour de l'organisation sont de modèles hybrides. Et puis après, il y a tout ce qui est fait par rapport au recyclage. C'est pour ça que vous voyez les coureurs qui n'ont le droit de vider leurs poches, vider leurs déchets, leurs détritus qu'à certains endroits et des grosses amendes s'ils font en dehors de ça. Et puis, il y a tout ce qui est aux alentours. C'est quand il y a les toilettes sèches, par exemple. Il y a plus de bouteilles d'eau. Et après, voilà, il y a des opportunités pour le Tour de France d'être plus vert, mais c'est compliqué d'être complètement vert sur une épreuve comme celle-ci. Après, voilà, on va voir comment tout cela évolue. L'important, c'est que les véhicules soient hybrides. Il y a beaucoup moins d'eau, de bouteilles, de plastique distribuées. Il y a des collectes qui sont effectuées. Ouais, c'est pas forcément encore tout à fait ça, mais je pense que honnêtement, et je le pense vraiment, le Tour de France fait un effort. Et de tous les événements sportifs auxquels j'ai pu assister, c'est peut-être un de ceux qui laisse à penser qu'il y a quand même le plus d'efforts qui est fait.
Merci beaucoup Christophe. On est impatients de se retrouver la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur le Tour de France, pour encore des belles étapes mythiques avec des paysages à couper le souffle, avec des Français, on espère, qui vont remonter la pente, si je puis me permettre.
Ouais, et absolument. Merci Thomas.
Merci Christophe, à très vite.
Et avant de clore cette page largement consacrée au Tour de France édition 2022, eh bien sachez que le Français Julien Alaphilippe, qui a dû se déclarer forfait pour le Tour de France 2022, eh bien s'élancera bel et bien, lui, de la Vuelta, le Tour d'Espagne, qui commencera le 19 août prochain. Et la Vuelta ainsi que le Tour de France 2022 sont bien sûr à suivre, comme d'habitude, sur SBS et SBS On Demand. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. C'était votre journal des sports du mardi 12 juillet. Comme chaque mardi, c'est l'heure de notre chronique, la semaine politique. Aujourd'hui, on va parler vaccins et coronavirus, puisque face à la nouvelle vague Omicron qui arrive sur le continent, eh bien, il y a désormais une quatrième dose de vaccin Covid-19. Ce second booster est disponible depuis hier pour les 30 ans et plus. Le changement dans la politique vaccinale intervient au moment où les hôpitaux commencent à sentir la pression face à la hausse des contaminations. Un reportage signé Patricia Meunier.
Il est temps de booster son immunité en Australie. Depuis hier, les 30 ans et plus sont éligibles pour une quatrième dose de vaccin Covid-19. Le gouvernement australien a donc réagi jeudi dernier. Une fois de plus, face au Covid, il prône la vaccination. L'ATAGI, le groupe qui donne les recommandations vaccinales au gouvernement, recommande une quatrième dose pour les plus de 50 ans. Pour la classe d'âge de 30 à 49 ans, la décision de relever sa manche est possible, mais reste une option. Autre changement dans la politique de santé, l'intervalle entre deux doses est raccourci de 4 à 3 mois. L'objectif reste le même, réduire les maladies graves et bien sûr la pression sur les hôpitaux. L'ATAGI estime que 7 millions d'Australiens sont éligibles pour une quatrième dose de vaccin. Le système est prêt pour cette nouvelle vaccination. On écoute Mark Butler, le ministre de la Santé australien.
There are almost 10,000 points of primary care, pharmacies and GP surgeries where you can go and get this fourth dose. We have lots of capacity in the system. They're running at a much lower level of activity than they were at the peak of vaccinations last year, about 80% lower. So there's lots of capacity in the system and there is lots of vaccine in the system, more than enough to accommodate, first of all, people catching up with those booster doses I've said they're overdue for, their third dose or even their fourth dose if they're over 65s, as well as the impact of the decisions I've just announced today.
Pourquoi ce changement dans la politique vaccinale? Eh bien, les responsables de la santé sont inquiets, car une troisième vague Omicron est arrivée en Australie, surtout sur la côte Est. Elle est portée par deux nouveaux sous-variants. Le pic est prévu à fin juillet, début août. La situation a en effet changé, car le virus a évolué, comme le confirme le ministre de la Santé australien.
It's very clear that across the country now, we're still only in the early stages of a building third Omicron wave just this year alone. It's a wave that is driven by new subvariants of the Omicron variant, BA4 and BA5, and it's becoming a very serious pressure on our health and hospital system. What is clear about BA4 and BA5 is that they are even more transmissible, even more infectious than the earlier subvariants that drove the summer wave, the BA1 wave in January, and the BA2 wave in April and May. They are more transmissible.
Les nouveaux variants Omicron créent une hausse de réinfection et d'hospitalisation. Leur particularité, ils semblent échapper à l'immunité du vaccin et également à celle d'une contamination antérieure. C'est sûr, le nombre de cas positifs va augmenter, d'autant plus qu'on est en hiver et que la grippe fait aussi des ravages. Si l'inquiétude gagne l'île continent, c'est parce que le système de santé est déjà en difficulté. Dans les hôpitaux, tout d'abord, les taux d'occupation y sont élevés. On compte 4000 lits attribués à des patients Covid au niveau national, dont un millier dans les deux dernières semaines. Dans les services d'urgence, on constate une hausse de plus de 40% dans les 15 derniers jours. Si l'Australie affiche des taux de vaccination modèles, elle est moins bonne élève en ce qui concerne les boosters. On constate que tout le monde n'a pas encore reçu sa troisième dose et on est déjà à la quatrième. En chiffres, 5 millions de personnes sont toujours éligibles pour le jab numéro 3. Les responsables de la santé continuent de marteler que deux doses, ce n'est pas assez. On écoute le message très clair de la doctoresse Kerry Chant, directrice de la santé publique de la Nouvelle-Galles du Sud.
Wearing a mask is part of is an okay thing to do, and it's reasonable to do it now. We are going to see a wave. Your risk of coming down with COVID is going to be significant in the next weeks to months. So isn't it worthwhile a simple measure of having a mask? And also an observation from our public health doctors out in the field is that we're really finding masks are really effective at preventing flu outbreaks. So we're seeing it prevent flu outbreaks in settings. It will prevent transmission of RSV. And so it's actually, if you don't want to become sick currently, with so many viruses circulating,
L'Atagui ne peut que conseiller des mesures de protection comme le port du masque, une désinfection des mains et un maintien d'une saine distance, car les États australiens ne prévoient pas de restrictions ou d'obligations de port du masque généralisées. Cependant, les directeurs de la santé ont tous rappelé que mieux vaut prévenir que guérir. On écoute le message de Kerry Chant.
Wearing a mask is part of is an okay thing to do, and it's reasonable to do it now. We are going to see a wave. Your risk of coming down with COVID is going to be significant in the next weeks to months. So isn't it worthwhile a simple measure of having a mask? And also an observation from our public health doctors out in the field is that we're really finding masks are really effective at preventing flu outbreaks. So we're seeing it prevent flu outbreaks in settings. It will prevent transmission of RSV.
Inciter le public sans l'obliger à porter un masque ne semble pas être des plus efficaces. On écoute le professeur Nancy Baxter de l'Université de Melbourne.
Getting masks on people earlier is better than later. And unfortunately, as I'm sure all your viewers know, if they're not mandated, Australians just don't seem to be willing to wear them.
Le coronavirus représente l'un des événements qui a apporté le plus de morts en Australie. Aujourd'hui, une personne sur 20 infectée est victime d'un long Covid. Clairement, ce virus reste un challenge majeur pour le continent comme pour le reste du monde.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Le South Australia s'apprête à accueillir de nouveau son festival de son et lumière durant le mois de juillet. Ça s'appelle Illuminate Adelaide. C'est une ode à l'innovation, à l'art, à la culture, à la musique et à la technologie. On va en parler un petit peu plus longuement puisque parmi les artistes présents sur place, eh bien, il y a la musicienne Talia Petrosian qui nous fait le plaisir d'être avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Talia, bonjour.
Bonjour Marianne, bonjour.
On l'a dit, hein, vous êtes musicienne, vous êtes soliste et chambriste et vous allez vous produire sur la scène du Illuminate Adelaide 3 soirs du 15 au 17 juillet. C'est un soir, un spectacle différent. Racontez-nous un petit peu le programme.
Oui, je vais présenter trois concerts à Adelaide. Les concerts s'appellent Classic Underground. Je viens d'Australie, je viens de Sydney, mais je travaille, j'ai un poste dans l'orchestre du Gewandhaus à Leipzig, en Allemagne. Et en 2016, j'ai créé une série de concerts à Leipzig qui s'appelle Classic Underground. C'est une série de concerts où je présente la musique classique en collaboration avec d'autres formes d'art. Et à Adelaide, je vais présenter trois concerts, la musique classique en collaboration avec les installations vidéo, avec l'art de laser. C'est une autre manière de présenter la musique classique.
Oui, justement, Classic Underground, vous l'avez créé en 2016 hein, et c'est un format assez innovant puisque avec Classic Underground, vous présentez des after-shows avec différents solistes qui sont invités, mais également des productions associant la musique classique avec différentes, diverses formes d'art, vous l'avez dit, comme la danse, le street art, le théâtre. Est-ce que c'était essentiel pour vous de démocratiser la musique classique ?
Oui, exactement ça. Ça, c'est surtout maintenant. Après les lockdowns, etc., j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas la patience pour les concerts qui durent peut-être 2 heures. Mm-hmm. Et c'est aussi nécessaire d'attirer les jeunes pour la musique classique. Et pour cette raison-là, j'ai décidé de présenter la musique classique dans une autre manière, en collaboration avec d'autres formes d'art et surtout avec d'autres formes d'art qui sont visuelles. C'est nécessaire d'avoir quelque chose qui est visuel pour garder la concentration des jeunes aujourd'hui. Et c'est nécessaire d'attirer les jeunes pour la musique classique.
Pourquoi il était important pour vous de jouer lors de ce festival, donc le Illuminate Adelaide? Est-ce que ce festival, de par son originalité et du fait qu'il allie la musique justement aux différentes formes d'art, est-ce que ce festival avait une résonance particulière pour vous et pour Classic Underground?
Oui, en tout cas, je crois que c'est un très bon mariage parce que le concept de Classic Underground, c'est un concept de la musique en collaboration avec d'autres formes d'art, avec la technologie, et c'est vraiment exactement le même concept du festival, du Illuminate Festival. Pour cette raison-là, je suis très impatiente de présenter mon concept à ce festival. C'est absolument le festival qui est parfait pour le concept Classic Underground.
Parlez-nous un petit peu plus en détail de vous, si vous le voulez bien, de votre parcours. J'ai lu que vous aviez fait des études de droit avant, un parcours très innovant et assez impressionnant, hein, dans le milieu artistique. On dit de vous que vous renouvelez la musique classique au 21e siècle. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on dise ça de vous? Comment est-ce que vous vous définissez?
À Sydney, j'ai fait mes études de droit et après mes études, j'ai décidé de déménager en Europe parce que en Europe, il y a une vie culturelle qui est très, très riche. J'ai fait mes études de la musique classique de l'alto à Berlin. Je joue dans un grand orchestre ici à Leipzig, mais en même temps, c'est nécessaire de faire beaucoup de choses à côté du travail dans l'orchestre. Je crois que c'est nécessaire de développer d'autres formats de concerts, d'autres séries de concerts pour la manière qui se marie avec la manière de vivre en 20e siècle. Ça, c'est pour moi une grande passion.
Et alors justement, vous parlez de développer d'autres concerts après le Illuminate Adelaide. Quelle est la suite pour vous? Quels sont vos projets?
Comme j'ai dit, après la corona, après le lockdown, il y a un grand intérêt pour les nouveaux formats de concerts. Et en ce moment, je suis occupée avec Classic Underground à Leipzig parce que la plupart de concerts de Classic Underground se déroulent à Leipzig. En juillet, je vais présenter Classic Underground à Adelaide, peut-être en Asie, peut-être aux États-Unis. J'ai déjà présenté Classic Underground à Tokyo, au Japon, mais en ce moment, parce que tout le monde cherche les nouveaux formats de concert. Il y a beaucoup d'intérêt pour Classic Underground et il y a beaucoup de chances de développer le concept dans d'autres pays.
On l'a dit, hein, donc Adelaide Illuminate, c'est un festival d'hiver dans le South Australia durant tout le mois de juillet. Talia Petrosian, vous serez sur scène du 15 au 17 juillet. On l'a dit, un soir, un concert. Donc, vous allez présenter trois concerts différents au public. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview en français.
Merci à vous. À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Enfin, des bichons, un rappel des grands titres de ce 12 juillet. Une nouvelle campagne nationale contre le racisme est lancée en Australie. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique tentent d'apporter l'unité dans la région. Et en France, la motion de censure déposée par l'Alliance de la gauche contre le gouvernement de la première ministre Elisabeth Borne a été rejetée hier à l'Assemblée nationale. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS. N'oubliez pas de télécharger nos podcasts. Entre-temps, sbs.com.au/french. Belle journée, à très bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.